Bonjour à vous et merci d'avoir décidé de nous écouter. Au programme, le travail pendant et après l'épidémie et le jardinage dès aujourd'hui. Allez, c'est parti.
La première.
Le samedi.
De 10h à 11h.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Pascal Claude.
Qui aurait pu imaginer que nous allions si rapidement nous y habituer ? Attention, je ne dis pas que c'est l'idéal, c'est pas banal. Mais vous aurez remarqué qu'en l'espace de quelques jours à peine, nous sommes parvenus à modifier pas mal de nos comportements. D'abord, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la disparition du toucher, de la distanciation sociale, si vous préférez. En ce moment, il n'y a plus que les écrans qui peuvent être tactiles. D'ailleurs, c'est grâce à eux que vous pouvez garder le contact le soir à l'heure de l'apéro. Les corps écartés dans la rue et au travail, c'est devenu normal. Et je constate que nos cerveaux s'y sont faits. Par exemple, quand vous voyez aujourd'hui dans un film ou sur une photo des gens qui se serrent la main ou qui se font la bise, je suis prêt à parier que ça vous surprend, que ça vous étonne au moins un peu, alors que jusqu'il y a peu, c'était d'une totale banalité. Nos habitudes modifiées, des angoisses et des difficultés à absorber, des libertés fondamentales temporairement mises de côté. Et pourtant déjà une nouvelle routine qui s'est installée, un nouveau train-train quotidien. Pour certains, le célèbre métro boulot-dodo s'est transformé en boulot, trop peu de dodo ou en pas de boulot et impossibilité du dodo. Nous nous habituons très vite, nous les humains. Nous résistons très souvent au choc. L'anormal se configure en normal, même si ce normal fait mal. Et pourtant, il faut le rappeler, nous ne sommes pas en temps normal. Nous sommes en temps de confinement. Le président français a même dit que nous étions en guerre, guerre sanitaire. Mais c'est comme si nous étions passés d'un normal à un autre normal. Le normal pourrait donc vite changer de visage, avec ou sans masque de protection. Le normal qui est bel et bien une construction. Mais quel est le normal qui va demeurer une fois que cette crise sera derrière nous ? Le normal d'hier ? Celui d'aujourd'hui ? Ou un normal entièrement régénéré, collectivement inventé ? Je me pose la question, quoi de plus normal ?
Dans quel monde on vit ?
Et en temps normal, nos invités, ils sont à nos côtés et pas au téléphone. Mais depuis la semaine dernière, nous sommes contraints de nous y habituer. Elles observent et pensent le monde du travail. Elles sont au bout du fil. Bonjour Dominique Méda.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et philosophe, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Paris-Dauphine. Et bonjour Isabelle Ferreras.
Bonjour Pascal Claude.
Vous êtes vous aussi sociologue, maître de recherche au FNRS, professeur à l'UC Louvain. Vous vous êtes habitué à quoi vous et peut-être malgré vous depuis le début du confinement, Dominique Méda d'abord.
Alors moi je suis obligée d'avouer que mes conditions de vie n'ont pas beaucoup changé parce
d'accord.
que comme les ce qu'on appelle les travailleurs intellectuels, je travaillais déjà beaucoup sur ordinateur. Alors ce qui me manque, ce sont mes collègues, hein, parce que je suis dans un gros laboratoire où on avait l'habitude en effet de se voir, et c'était très important. Mais je pense que, peut-être on tirera ce fil, mais les conditions de confinement et de travail aujourd'hui sont très différentes selon les individus et selon les métiers, évidemment, voire selon les classes sociales.
Et vous, Isabelle Ferreras, vous êtes habituée à quelque chose ?
Ben, je ne sais pas si je suis déjà habituée, mais à vivre avec mes enfants tout le temps. c'est toute une étape.
Et c'est une aventure, oui.
Voilà.
Quel nouveau normal espérer pour le monde du travail ? C'est la question que nous creuserons avec vous dans quelques instants. Vous êtes nos invités jusqu'à 11h. Le printemps et le confinement, deux arguments pour vous donner envie de jardiner chez vous si vous avez cette chance, ou par exemple dans un potager collectif. Le poète et penseur du jardin Gilles Clément sera avec nous tout à l'heure. Et puis, comme en temps normal, une lettre est au programme. Bonjour Laurent de Sutter.
Bonjour Pascal.
Vous êtes essayiste et éditeur. En toutes lettres, c'est avec vous cette semaine. À qui écrivez-vous ?
Bien figurez-vous que je nous écris à nous-mêmes, pour une fois changé.
Allez, rendez-vous avec vous, avec nous, dans une demi-heure environ. Et enfin, la journaliste Pascal Clark nous écrira, elle aussi, depuis les confins de l'ennui. Le coronavirus et ses conséquences encore et toujours au devant de l'actualité. Le condensé est dans la photo sonore d'Hélène Verrier.
C'est l'un des derniers géants de la bande dessinée qui vient de tirer sa révérence. Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est mort.
Tu sais ce qu'il te dit, monsieur Astérix ?
Restez. On compte sur vous, sauvez les vies.
Restez chez vous.
C'est une période dans laquelle tout le monde doit prendre ses responsabilités.
C'est un drôle de silence qui vient de la rue.
Restez au maximum chez vous, seuls des déplacements essentiels sont autorisés.
Comme un dimanche imprévu.
Bien sûr, on comprend que certains voudraient profiter du soleil.
Des fois, je pète les câbles tout seul, j'ai envie de sortir jouer au foot avec mes potes et tout, mais je me dis non, je dois tenir. On doit respecter le confinement, c'est très important.
Un homme chante là-bas sur un balcon. Sa voisine l'accompagne au violon.
Times Square et Desert.
We are the epicenter of this crisis.
Il a été décidé que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo auront lieu au
La pandémie menace l'humanité entière.
You must stay at home.
Nous allons pouvoir, ensemble, limiter la propagation du virus.
Sûr que nos vies d'après seront plus belles. Surtout, donne-moi des nouvelles.
L'actualité de la semaine écoulée, photographiée par Elena Verrier. Je retiens aussi ces mots entendus à plusieurs reprises. Nous sommes de la chair à canon. Mots entendus, bien sûr, dans le monde hospitalier, mais aussi ici. Ici, à la caisse du supermarché, les caissières qui se retrouvent en ce moment en première ligne. Isabelle Ferreras, vous avez consacré jadis votre thèse aux caissières. J'imagine donc que vous êtes très attentive à ce qu'elles vivent en ce moment.
Oui, c'est tout à fait touchant. Et en même temps, effectivement, je pense que la caissière, elle nous parle de toutes les autres fonctions aussi qui sont en première ligne. Ce que j'ai appris sur les caissières, c'est que elles sont dans un rapport au travail que j'ai appelé politique. C'est-à-dire que leur travail n'est pas juste instrumental. Elles ne font pas juste leur travail pour avoir un salaire au bout du mois, mais leur travail les mobilise entièrement. Et on voit bien aujourd'hui, dans une situation aussi critique que celle dans laquelle on est, que c'est bien le cas, puisque toute une série pourrait trouver des bonnes raisons de dire « je ne vais pas venir au travail » et pourtant, elles sont là.
Dominique Méda, cette crise, elle permet de faire un tri entre les métiers utiles pour la société et ceux qui sont, disons, plus dispensables ?
Ben oui, c'est vraiment ce qui est mis en évidence aujourd'hui. Hein. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de métiers considérés avant comme vraiment peu intéressants, peu essentiels, qui deviennent absolument essentiels. Et on découvre que ce sont les métiers les plus mal payés. Et puis, il y a toute une série de métiers très prestigieux et super rémunérés qui ont complètement disparu de l'écran.
On identifie donc plus facilement ce que l'on a appelé les boulots à la con, les « bullshit jobs ».
Oui, vous savez, dans ce bouquin, David Graeber, donc l'auteur de ce bouquin, proposait en effet de faire une expérience. Il disait, si vous voulez savoir quels sont les métiers essentiels, supprimez-les et puis vous verrez ce qu'il advient de la société. Et il ne pensait pas si bien dire, c'est-à-dire, ça y est, on a l'expérience naturelle, on fait vraiment une expérience naturelle et on peut voir, mais réellement, physiquement, qui sont les gens qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Alors, on a parlé des caissières, il y a aussi les transporteurs, ceux qui fabriquent produisent notre alimentation et évidemment, en première ligne, les soignants. Alors moi, je ne dis pas que tous les métiers sont des métiers qui étaient déconsidérés. Je veux dire, les médecins, ce n'était pas du tout un métier déconsidéré. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les femmes là-dedans sont en première ligne. Hein. Y a énormément de femmes dans tous les métiers qu'on appelle du care, métiers du prendre soin, ou les métiers de la vente. Et voilà, c'est à la fois, on a cette nouvelle contradiction de hiérarchie sociale des métiers et hiérarchie des rémunérations, de la reconnaissance sociale.
Une hiérarchie à repenser d'urgence ?
Mais bien sûr, alors à repenser dès maintenant, et en effet, je pense qu'on peut espérer pour l'avenir, un retournement, c'est-à-dire une augmentation de salaire pour toutes ces professions essentielles, rendues enfin visibles, et peut-être une limitation des rémunérations exorbitantes pour tous les métiers dont on s'aperçoit que finalement, ils sont peut-être essentiels au capitalisme ou aux actionnaires, mais ils ne sont pas essentiels pour notre vie quotidienne, pour la satisfaction de nos besoins sociaux.
Plusieurs d'entre nous ont testé pour la première fois le télétravail, le travail qui tient compte de la distanciation sociale.
Salut Laure, ça va ? Je voulais voir avec toi pour le mail de Stéphanie qu'on avait reçu.
On doit réfléchir aux tâches, on doit réfléchir à la manière dont on communique les uns avec les autres. On doit surtout réapprendre à se faire confiance.
Faisons de cette contrainte de confinement peut-être une opportunité.
C'est surtout la possibilité de faire émerger des pratiques collaborative bien plus marquée et quitter ce management encore très autoritaire qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises.
Avec cette crise et le télétravail, on l'entend, la surveillance doit faire place à la confiance. Ça vous inspire quel commentaire, Isabelle Ferreras ?
Ça m'inspire d'abord le fait que la théorie économique du travail dont on hérite est relativement invalidée par tout ce qu'on voit aujourd'hui. comment elle fonctionne, cette théorie, elle pense qu'en fait, l'employé doit être sous le contrôle direct, même sous la vue de la hiérarchie, pour pouvoir éviter que le travailleur ne soit en fait paresseux. Et effectivement, la théorie économique, elle a une équation très simple dans ce qui motive le travailleur. Elle oppose l'effort de travail contre l'appétence au loisir. On voit très très bien aujourd'hui que c'est une vision qui n'est absolument pas une description utile de la réalité. Le télétravail a toujours fait peur aux employeurs, d'ailleurs, parce que il était pensé comme la manière d'échapper au contrôle de l'employeur et donc très très problématique. Avec les technologies de contrôle à distance, ça a un petit peu rassuré les entreprises et elles, certaines plus que d'autres ont été prêtes à mettre leurs travailleurs à distance, mais ce n'était vraiment pas la norme. Et ce que cette crise révèle, c'est qu'effectivement, les personnes au travail, en fait, portent vraiment la mission de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Et je vois tellement d'exemples, que ce soit évidemment mes plus proches collègues à l'université qui donnent leurs cours à distance, qui se sont réinventés, un philosophe du droit qui n'avait jamais fait de rien du tout sur son ordinateur à part recevoir des mails, qui tout d'un coup devient le champion des captures vidéo pour pouvoir transmettre à ses étudiants tout ce qu'il voulait leur transmettre dans la salle de classe et qui n'est plus possible. Mais vous avez ça dans toutes les organisations, publiques, privées, les travailleurs sont derrière leur écran en mobilisant souvent d'ailleurs leurs ordinateurs personnels, privés, pour pouvoir faire tenir les missions de l'entreprise ou de l'organisation à laquelle ils travaillent. Et pour cette raison, je pense qu'il faut vraiment considérer sérieusement que notre modèle de compréhension de ce qu'est le travail est complètement à côté de la plaque et qu'en fait, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les travailleurs sont des investisseurs dans le travail et dans le service que leur entreprise...
Les travailleurs qui sont des investisseurs en travail, c'est ça?
Oui, exactement. Donc on a toujours pensé le modèle économique dont on hérite, c'est un modèle qui pense que les vrais investisseurs sont ceux qui apportent du capital. Et que ceux qui amènent du travail ne sont même pas considérés comme des investisseurs. Ce sont une force de travail, hein, c'est une ressource humaine qui est contractée par le biais du droit du travail. Or, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a la preuve, si vous voulez, grandeur nature, que l'entreprise... elle existe par, en fait, cet investissement en travail. Et s'il n'y avait pas cet investissement en travail, vous pouvez mettre tout l'argent du monde que vous voulez sur la table. Il se passera absolument rien. L'argent ne sera pas productif. Et donc, je pense qu'il faut effectivement comprendre qu'on doit sortir d'une compréhension de l'entreprise comme étant la mobilisation d'un capital qui est seul considéré comme l'investissement qui compte, mais en fait, de comprendre que l'entreprise, c'est un investissement en travail qui mobilise évidemment des capitaux, ça on ne peut pas le nier, c'est une évidence, mais l'investissement dont dépend la vie et la survie de l'entreprise, clairement dans cette crise, c'est l'investissement en travail.
Un mot encore sur le télétravail tout de même, parce que c'est pas forcément l'idéal le télétravail. Pour pas mal, c'est le début de l'enfer, Dominique Méda.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Moi, je ne pense pas que cette forme va se déployer considérablement ou va être généralisée, parce qu'il y a quand même énormément... il y a énormément d'inconvénients au télétravail. Alors certes, il y a des avantages, on les voit en ce moment, mais parmi les inconvénients, il y a l'isolement quand même extrême du travailleur. Je veux dire, on est tout seul devant notre écran. Du coup, l'employeur peut vous demander un peu n'importe quoi, vous êtes tout seul pour lui dire non. Et puis, évidemment, Isabelle Ferraras en parlait tout à l'heure, il y a la question des enfants, il y a la question de toutes les charges familiales et domestiques qui sont présentes et qui doivent être conciliées avec tout ça. Alors, quand vous n'avez pas...
Il y a un enjeu de santé mentale là-derrière à considérer?
Oui, non, mais bien sûr. Et ça peut être terriblement compliqué de télétravailler. Et puis, il y a un autre enjeu. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse des recherches approfondies là-dessus. Quand vous avez un couple biactif avec de jeunes enfants, qu'est-ce que le partage des tâches va devenir? C'est-à-dire, en général, on sait que c'est les femmes qui continuent à les prendre en charge, ces tâches. Est-ce que les hommes ne vont pas s'apercevoir brutalement, pour ceux qui ne mettaient pas encore la main à la pâte, hein, est-ce qu'ils ne vont pas s'apercevoir brutalement du volume de temps et de difficultés que ça représente? Et est-ce qu'ils vont accepter d'en prendre une part? Donc, est-ce que le télétravail, est-ce que ce confinement, ça va nous amener ou pas à un nouveau partage des tâches?
Vous estimez aussi, Dominique Méda, que cette crise, elle va nous apprendre énormément de choses sur la place du travail dans nos vies. Quoi, par exemple, d'essentiel, Dominique Méda?
Alors, d'une part, sur la place du travail elle-même, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y a que les chômeurs, les intermittents, les intérimaires qui faisaient l'expérience de ce que provoque l'absence de travail. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font cette expérience. Et donc, ça nous apprend l'ensemble des fonctions du travail. Le fait, alors ça a été raconté par des tas de sociologues, je pense à ce très beau livre « Les chômeurs » de Marienthal, la manière dont notre temps est structuré par le travail, l'importance aussi du toucher, du contact, des petits coucous dans les bureaux, de voir la personne, de voir son regard, son sourire. Ça, voilà, dans le travail, il y a des aspects de contact, de toucher, d'échange qui sont absolument importants. Je crois que c'est ça aussi qu'on apprend.
Isabelle Ferreras, pour vous, la récompense que l'on pourrait leur offrir aux travailleurs qui s'investissent en ce moment pleinement dans cette crise, c'est plus de démocratie au sein de l'entreprise. Pourquoi devraient-ils, les travailleurs, rêver de ça plutôt que, par exemple, je ne sais pas moi, d'une augmentation de salaire, Isabelle Ferreras?
Oui, très bonne question. Et effectivement, j'écoutais très attentivement ce que disait Dominique Méda plus tôt dans l'émission. Elle a tout à fait raison de dire que, évidemment, la revalorisation salariale des métiers qui étaient dévalorisés doit être une priorité absolue. Mais au-delà de ça, effectivement, la justice qu'on appelle distributive ne suffit, à mon sens, pas du tout face à l'enjeu dont il est question. En fait, quand on regarde les grandes crises civilisationnelle, si vous voulez, et si on se rapporte à la dernière, qui est la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été l'occasion, dans un pays comme la Belgique ou comme la France, de se rendre compte que, finalement, les femmes, en fait, avaient été cruciales dans l'effort de guerre, tout comme les travailleurs qui avaient pu continuer à travailler, finalement, méritaient mieux que simplement un simple salaire, c'est-à-dire la simple justice distributive. Et quand vous regardez ce qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement le suffrage universel étendu aux femmes, la reconnaissance du droit de vote aux femmes, et l'établissement de conseils d'entreprise dans les entreprises qui sont l'expression du droit à la citoyenneté dans l'entreprise, mais qui est une expression qui était embryonnaire, si je puis dire, parce qu'elle n'a pas été encore saisie jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce que ça a donné, c'est d'un conseil d'entreprise où, effectivement, les travailleurs ont la possibilité...
ils sont représentés.
Voilà, ils sont représentés au travers des élections sociales, avec des listes syndicales, mais cette chambre rencontre le top management de l'entreprise, est informée, est consultée, mais n'a pas une voix vraiment sur le gouvernement de l'entreprise. Dans cette crise, ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement que sans cet investissement en travail, nos organisations ne tiennent pas et que l'on doit sortir d'une logique qui instrumentalise les humains. Quand on instrumentalise les humains et qu'on les traite comme des outils, eh bien, ça provoque le pire. Et ce qui est magnifique, en quelque sorte, dans ce moment de crise, et ce qui fait que moi, je ne peux pas être totalement déprimée ou anéantie, c'est de voir que, justement, des gens qu'on a traités comme des instruments pendant toute leur vie sont quand même encore toujours capables aujourd'hui de se comporter, non pas comme des instruments, mais comme des êtres pleins et entiers sur leurs deux pieds pour remplir les fonctions pour lesquels ils sont là au travail, que ce soit l'infirmière, la caissière, le facteur, enfin tout ce dont on a déjà parlé, en termes de fonctions vitales aujourd'hui. Et donc, effectivement, je crois qu'il faudra envisager le prochain saut, si vous voulez, dans l'avancée. On peut
Mais alors, concrètement,
ça...
ce prochain saut, il doit passer par quel droit? Par quel droit nouveau à accorder aux travailleurs, aux investisseurs en travail, comme vous les appelez?
L'idée, si vous voulez, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en fait en sorte que les travailleurs soient des citoyens aussi dans le travail. Et ça veut dire qu'en gros, en Belgique, par exemple, on a déjà l'organe nécessaire. L'institution, elle existe, ce sont les conseils d'entreprise. Le conseil d'entreprise, c'est cette chambre des représentants des investisseurs en travail. Simplement, elle est inféodée, elle est un parlement croupion, si vous voulez, au pire, si vous me passez l'expression, dans le sens où ce Parlement n'a aucun pouvoir. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre à niveau égal le conseil d'administration de la société anonyme et le conseil d'entreprise qui représente les travailleurs. Et du coup, ça vous fait un top management qui va être complètement différent. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce possible que cette logique actionnariale a pris tellement d'ampleur. Comment est-ce que depuis la crise de 2008, les entreprises ont passé le temps à quoi ? À racheter leurs propres actions pour en augmenter la valeur. Mais vous imaginez que si le top management de l'entreprise devait rendre compte à ces deux chambres réunies ensemble pour que les gens s'entendent et s'écoutent et justifient leur position de chaque côté, eh bien le top management ne pourrait pas proposer des aberrations pareilles et devrait beaucoup plus tenir compte de satisfaire à la fois les besoins, certes légitimes, des actionnaires, mais les besoins des travailleurs, les besoins en termes de création de postes pour la qualité du service, les besoins en termes de rémunération, bien évidemment, de formation, etc.
Dominique Méda, après la crise, il va falloir évidemment relancer la machine économique. Comment doit-elle redémarrer idéalement et en tenant compte de quoi en priorité, Dominique Méda ?
Moi, il me semble que ce que révèle la situation actuelle, c'est la très grande impréparation de nos sociétés devant les crises, la manière dont on a délocalisé nos productions les plus stratégiques.
Il faut relocaliser
Alors, il faut non seulement relocaliser, on sait que c'est très difficile, hein, c'est pas pour rien qu'on a délocalisé les productions, mais donc il faut relocaliser, mais j'irai encore plus loin, il me semble qu'il faut le faire dans un cadre radicalement nouveau, que moi j'appelle le cadre de la reconversion écologique, parce qu'on sait bien, là c'est une crise grave qui nous arrive, mais ce qui
donc
nous attend...
Donc il faut déjà penser aux prochaines crises.
Ah ben, il faut penser aux prochaines crises et il faut complètement reconvertir nos sociétés. Je partage tout à fait ce qu'a dit Isabelle Ferreira sur l'organisation des entreprises et sur le fait qu'il faut que les principaux intéressés décident des conditions de production. Mais je pense qu'il nous faut une véritable révolution, révolution de nos indicateurs. Il faut rebâtir complètement notre économie. Alors, on parle souvent de transition écologique. Moi, je vais un cran plus loin. C'est pas seulement une transition écologique énergétique. Il faut reconstruire nos économies, y compris en mettant au centre de tout la sobriété. Il faut qu'on change radicalement de comportement. Il faut sans doute qu'on relocalise nos productions et qu'on rende nos territoires autonomes. Et peut-être qu'on aura la chance d'avoir un triple dividende, c'est-à-dire gagner le caractère habitable de notre planète, créer des emplois. Je pense que tout ça peut être très créateur d'emplois et créateur d'emplois assez différents finalement, et réorganiser les modes de travail. Peut-être qu'on va quitter ces longues chaînes internationales de production complètement folles pour avoir des circuits beaucoup plus courts, rendre les territoires autonomes et du coup développer à la fois de nouveaux métiers, mais des métiers un peu basiques, hein, des filières de recyclage, de réparation et produire plus durable. Et ça nécessite qu'on pense cette nouvelle société dès maintenant.
Une société de la sobriété, vous avez utilisé ce terme de sobriété, c'est-à-dire s'éloigner du consumérisme, aller vers une sorte de décroissance, mot qui fait peur ?
Oui, alors moi j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs avec des collègues belges, avec Isabelle Cassirs, Kevin Maréchal, sur la notion plutôt de post-croissance. Parce que décroissance, ça fait peur. En même temps, je pense qu'aujourd'hui...
Et post-croissance, ça veut dire quoi alors?
Post-croissance, ça veut dire on arrête de fétichiser le PIB, hein, on arrête de se dire que ce qu'on veut, c'est un gros
le
PIB.
Le PIB,
Le PIB, voilà. Et on prend d'autres indicateurs qui, eux, indiquent véritablement ce qui est important pour la société, ce qui compte pour nous. Qu'est-ce qui compte pour nous ? De sauvegarder les conditions d'habitabilité de la planète, c'est-à-dire, par exemple, de ne pas produire trop de CO2. Donc, on pourrait prendre l'empreinte carbone, une nouvelle mesure qui serait le carbone, avec des quotas pour chacun et pour chaque organisation. Et puis, faire cela, faire cette réduction, ce processus de sobriété, le faire dans la justice sociale et donc un indice de santé sociale qui nous montrerait comment on prend en considération tout le monde dans ce nouveau processus de décroissance.
Une question encore, Isabelle Ferreira. Il paraît que ce sont les entreprises gouvernées démocratiquement qui seront prêtes, les premières, pour mener cette bataille de la transition écologique. Ça a été prouvé, ça ?
Ce qui est clair et ce qui est prouvé, c'est que ce sont les entreprises effectivement qui mobilisent réellement leurs travailleurs pleinement, qui sont en fait les plus productives. Ça veut dire que si on se met dans un cadre, le cadre dont Dominique Méda parle, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui est inclus dans le calcul de ce qui est productif, eh bien on inclut les limites de la planète. Effectivement, les entreprises qui mobilisent pleinement leurs travailleurs jusqu'à leur donner du pouvoir sont celles qui vont pouvoir le mieux respecter la planète. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que la démocratie se trouve en fait au cœur de la solution pour la transition écologique, eh bien, on ne va pas y arriver. Alors, laissez-moi le dire autrement. Il y a par exemple une étude en 2011, une étude de trois ingénieurs de l'Université de Cambridge qui ont montré que 73% de la consommation d'énergie dans le monde pouvait être économisée au travers de ce qu'ils appellent des transformations du design productif qui sont achievable, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compliqués. Mais pour faire cette transformation des designs productifs, il faut investir dans le travail, parce que ça veut dire qu'on consommerait moins d'énergie, mais qu'on consommerait plus de travail. Mmh. Et donc, il faut comprendre que...
Et donc aussi que ça coûterait plus cher pour l'entreprise.
Voilà. Mais donc, le nœud, de nouveau, c'est celui-là. Ouais. C'est que si l'on laisse les entreprises aux mains des seuls apporteurs de capitaux, il est tout à fait normal que l'entreprise va chercher un retour sur investissement le plus important possible pour les apporteurs de capitaux. Donc, il faut injecter au cœur même de notre modèle, évidemment, la représentation des travailleurs qui, eux, pourront veiller, d'abord au travers de veiller simplement à la question de l'emploi, à la question de l'usage des ressources de la planète. C'est une chimère d'imaginer que l'on pourrait générer une forme de capitalisme, si vous voulez, qui va tout d'un coup tenir compte des limites de la planète. Le capitalisme est fait pour produire un retour sur investissement pour les seuls apporteurs de capital. Donc ça, c'est un fait, c'est descriptif, si vous voulez, et il faut y injecter donc la démocratisation pour qu'on puisse sortir de ce monopole de gouverner obtenu aujourd'hui ou détenu aujourd'hui par ceux qui apportent du capital.
Isabelle Ferreras et Dominique Méda, vous restez bien là, vous aurez une idée culturelle à partager avec nous à la fin de ce numéro. Dans quelques minutes, moment de ressourcement, nous sommes tous au jardin avec le jardinier et poète Gilles Clément. Et dans un instant, Laurent de Sutter, vous écrivez à...
À nous Pascal.
Eh bien, à tout de suite et beau samedi à nous.
La première.
Dans quel monde on vit?
Le samedi de 10h à 11h.
Pascal Claude.
Merci d'entamer le week-end à nos côtés. Dans quel monde on vit? Deuxième partie. Écoutez ça. La bande-son du printemps, chorale d'oiseaux, impression de renouveau. En ces temps de confinement, le balcon, la terrasse et le jardin restent des espaces possibles, portes ouvertes, libres d'accès. Main dans la terre et semences au creux de la paume, certains confinés viennent ces jours-ci de se découvrir ou de s'improviser jardiniers. Mais pourquoi et comment jardiner? Gilles Clément pense le jardin depuis un bon bout de temps. Dans 3 minutes, il est notre invité. Avant cela, c'est en toutes lettres avec l'essayiste et éditeur Laurent de Sutter. Tiens, vous avez la main verte, vous, Laurent?
Pas du tout.
Bon, Laurent, vous écrivez à nous et votre lettre, vous l'avez enregistrée, confinée chez vous, via WhatsApp. Nous vous écoutons.
Chers nous, les confinés, les bouclés, les enfermés. Chers nous, vous, chers tous. Car ceux à qui je m'adresse aujourd'hui sont sans exception. Nous sommes tous confinés. Que ce soit chez nous, comme on dit, ou que ce soit dehors, dans les postes que les autorités ont décidé de considérer comme essentiels. Nous sommes tous confinés, et disons-le, nous n'aimons pas trop ça. Il y a les enfants qui hurlent, les conjoints qui pèsent, les voisins qui écoutent de la musique un peu fort toute la journée, et puis les imbéciles dehors qui ne semblent pas avoir compris ce que confinement voulait dire. Bien entendu, le plus souvent, les imbéciles en question ne sont autres que nous-mêmes, parce qu'il y a le chien promené, les courses à faire ou le jogging à accomplir. Oui, chers nous, nous sommes tous confinés, nous sommes tous relégués aux confins du monde. Car confiné ne veut rien dire d'autre. Être confiné, cela signifie se retrouver dans un espace d'indétermination, une sorte de frontière séparant le territoire que nous connaissons de ce dont nous ignorons tout. Être confiné, c'est littéralement se situer à la limite du monde connu. De fait, il faut que nous l'avouions, nous ne savons pas grand-chose, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous sommes confinés, nous ne savons pas non plus pour combien de temps. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour que ça cesse, et lorsque ce sera fini, nous n'aurons aucune idée de ce qu'il nous faudra accomplir pour rattraper le temps perdu, pour nous remettre en règle des échéances que nous aurions dû payer mais que nous ne pouvions pas, ou même pour reprendre notre vie telle qu'elle était avant. Nous sommes un peu perdus. Vous, moi, le voisin, les médecins qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, les politiciens qui pataugent dans la semoule, les intellectuels qui ont pourtant toujours une théorie d'avance sur l'absence d'événements. La condition qui nous réunit, et celle du confinement dans l'ignorance. Nous préférerions savoir, ou au moins que quelqu'un quelque part sache pour nous. Hélas, personne ne sait rien nulle part. Bien sûr, il y a des bouts de connaissances, des bribes, des tests, des expériences, des espoirs, des précédents dont méditer la leçon. Mais si les leçons étaient vraiment faites pour être méditées, il y a longtemps que nous en serions tous dans les rues, d'un monde parfait. Cette ignorance, chers nous rend parfois fous. aussi fou que ces amants qui attendent chaque jour avec davantage d'impatience de se retrouver. Elle nous rend si agressifs, elle nous rend paranoïaques. Ce réflexe bêta que les esprits élevés préfèrent baptiser lucidité sans se rendre compte qu'il ne s'agit que de la même chose. Cette paranoïa, cette lucidité, nous obsédés par la volonté de déterrer le vrai de ce qui résiste encore à notre savoir, de forcer notre ignorance à aller plus vite que les tests et les expériences, de formuler enfin une conclusion. Cette conclusion, comme toujours dans la paranoïa, prend la forme d'une faute. La faute aux Chinois, la faute à Trump, la faute au capitalisme, à l'Europe, à Sophie Villemès, à Maggie Debloc, la faute aux voisins qui ne portent pas de masque. La faute aux supermarchés qui ne respectent pas le taux maximal de remplissage. Sauf que, cher nous, il n'y a pas de dehors ou nous. La maladie se fiche des fautes, des erreurs et des responsabilités. La maladie ne recherche qu'une seule chose, qui est la même chose que celle qui nous anime aussi, continuer. C'est parce que nous cherchons à continuer que le virus le peut aussi, car au fond, il fait partie de ce nous. Nous confiner, c'est confiner le virus aussi, c'est confiner le virus surtout. C'est peut-être ça qui nous rend le plus dingue d'ailleurs, qu'en réalité, il ne s'agisse pas vraiment de nous. Le virus se fiche de notre existence, à l'exception du fait que nous formons un excellent milieu de vie pour lui. Il nous ignore tout autant que nous ignorons tout de lui. Il se situe, lui aussi, aux confins. Oui, cher nous, nous vivons le temps du confinement du savoir. Ça devrait nous inspirer un peu de modestie et davantage de considération aussi pour la manière dont nous vivions notre vie avant. Parce qu'avant, c'est aussi ce qui nous attend après. C'était avant qu'il y avait des choses à régler, à fixer ou à guérir. C'était avant que la situation était grave. S'il y a une chose que nous savons enfin, au milieu de notre ignorance, c'est que le seul après qui nous attende, c'est l'après des problèmes que nous avions laissés en friche avant. Et qu'aucun virus, qu'aucune crise, qu'aucun confinement ne réglera jamais. Très cordialement à vous, Laurent de Sutter.
Merci à vous, Laurent. Cette lettre, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. C'est bien avant le confinement que Gilles Clément s'était arrêté dans notre studio. Nous avions mis de côté cet entretien pour vous le proposer au début du printemps. Il est donc temps, après une semaine ensoleillée, c'est le bon moment. Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste et surtout, et il insiste, poète. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour.
Quand avez-vous commencé à mettre les mains dans la terre, la première fois?
J'ai commencé à mettre les mains dans la terre quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, je ne me rends pas bien compte. Mais c'était pour par curiosité, c'était pour discuter, si je peux dire, avec un ou deux insectes. Ce sont les insectes qui m'ont amené au jardin.
Vous dites discuter?
Je dis discuter parce que moi, je ne voulais pas les supprimer déjà. Et je n'ai jamais voulu par la suite non plus, dans tout mon métier. Mais dès cette époque-là, j'étais extrêmement surpris par leur forme, leur beauté parfois, leur comportement mystérieux en fait. Et donc beaucoup sont sur le sol ou dans les plantes, avec les plantes très liées, tout ça. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est une sorte d'écosystème. Le mot n'existait pas pour moi, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis un petit peu plus tard, mes parents m'ont dit « Mais tiens, tu devrais t'occuper du jardin un petit peu. » Il y avait un petit jardin, c'était pas très grand, mais c'était suffisant pour faire des découvertes.
Qu'est-ce que c'est pour vous, Gilles Clément, les mauvaises herbes?
Ça, c'est rien. Les mauvaises herbes n'existent pas. Au début, j'ai cru qu'elles existaient, puisqu'on m'avait dit « c'est des mauvaises herbes ». J'en ai même enlevé dans le jardin de ce petit jardin dont je parle, de mes parents. Mais après, je me suis rendu compte que de toute façon, ça ne servait pas à grand-chose parce qu'elles revenaient. Mais surtout, très vite, j'ai bien compris qu'elles étaient utiles dans le sens où elles rentraient dans l'écosystème en question et parce qu'il y avait des animaux qui s'en servaient. Donc, pourquoi elles seraient mauvaises?
Pour les légumes, peut-être?
Même pas pour les légumes, elles sont peut-être à des mauvaises places. Ça, c'est possible. Mais en soi, elles ne sont absolument pas mauvaises. Elles peuvent gêner. Certaines plantes peuvent gêner des plantes que l'on voudrait voir se développer. Mais même les plantes qui vont jouer ce rôle-là de gêne sont parfois des plantes dont on a aussi envie. Il faut juste les déplacer. Elles ne sont pas mauvaises.
Vous dites, Gilles Clément, que quand on jardine, on n'est jamais déçu. Pourquoi ?
On n'est jamais déçu parce que on est d'abord dans ce que j'appelle un territoire mental d'espérance.
Un territoire mental d'espérance ?
Oui. On est dans un espace et dans un temps qui est particulier parce qu'on est sans arrêt sur le futur. on plante une graine, c'est pour demain. On fait quelque chose qui est pour plus tard, tout le temps. Mais on ne sait pas quand, du tout.
Jardiner, c'est penser à demain ?
Oui, c'est envisager quelque chose pour demain, pour le futur en tout cas. Mais demain, on ne sait pas ce que c'est que demain. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas à l'heure près, ni au jour près. C'est juste pour le futur. Donc on n'est jamais dans la nostalgie, on est toujours dans un projet qui va être modifié, évidemment, lui, par quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et on est toujours surpris par ça.
Et donc jardiner, c'est modifier son rapport au temps ?
Mais jardiner, c'est accompagner le temps, c'est ne pas s'y heurter. On n'est pas dans le stress. On vit avec ça. Et avec le mot français, dans notre langue, désigne à la fois la durée et la saison. Et ça, c'est assez bien, je trouve. C'est intéressant qu'on ait un seul mot pour ces deux choses si différentes. Mais oui, ça va bien avec. C'est pour ça que j'aime les grues ou les animaux qui nous signalent le moment où il faut migrer, où il faut changer de saison.
On va les écouter, les grues, parce que c'est précisément le son qui vous définit et que vous avez choisi, Gilles Clément. Je vous vois sourire.
Mais oui, c'est magnifique. C'est magnifique, peut-être pas exactement par la sonorité. On n'est pas obligé d'être séduit par la qualité sonore de ce chant. Il est juste en corrélation avec la vie, les saisons, ce qu'on vient de dire, le temps.
Et le déplacement.
Et le déplacement, bien sûr.
Et le mouvement.
Et le mouvement. Donc on n'est jamais dans quelque chose de complètement figé. Je trouve que cette adaptation des oiseaux, mais de tous les êtres migrateurs, à quelque chose qui convient pour l'être vivant, c'est parfait, quoi. C'est vraiment remarquable. Ça ne répond pas du tout à une vision programmée. On change s'il faut changer.
Qu'est-ce que le jardin apprend avant tout à l'être humain ? Gilles Clément.
Oui, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ça dépend de l'écoute de l'être en question. Mais je pense que ça met d'abord en équilibre. Et il y a une vertu thérapeutique du jardin qui est connue, qui est mal comprise parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça fonctionne comme ça, sauf que ça fonctionne comme ça. À partir du moment où on a cet équilibre qui est au fond le fait de ne pas être dans le stress, de se sentir heureux, de savoir qu'on fait quelque chose qui a une utilité, en même temps d'être surpris par cette chose-là, ce que ça nous apprend justement, c'est une forme d'humilité et de nécessité de rentrer en dialogue et de ne pas se mettre contre.
Et donc le jardin nous soigne aussi en quelque sorte ?
Oui, mais ça, on s'en rend pas tout de suite compte. Oui, le jardin nous soigne. Alors il y a des institutions qui se sont branchées là-dessus. Mmh. J'ai travaillé pour un hôpital de psychiatrie, d'adolescents en psychiatrie, l'hôpital Salvator à Marseille. Et je fais des propositions d'aménagement. Moi, je n'ai pas eu de contact avec les adolescents en question. Mais les soignants m'ont dit que ce qu'il fallait agrandir dans le projet, c'était le jardin potager, parce que c'est là qu'ils allaient travailler, eux, directement. Le reste, c'était plutôt pour se détendre, pour jouer, pour je ne sais pas quoi, même pédagogiquement, des rapports comme ça. Mais là, ils allaient mettre les mains dans la terre. Eux, ils le savaient. Donc c'est quand même quelque chose de connu, heureusement.
Votre premier conseil à adresser à celui qui veut se lancer dans le jardinage, c'est celui-ci. Ne faites rien.
Oui, enfin, c'est un conseil, c'est aussi ce que je dis à mes étudiants, mais c'est dans notre métier. Hein. Si vous ne faites rien, vous êtes utile à tous. Si vous ne faites rien, ça devient une forêt, votre prairie, là, votre friche. Et là, vous faites beaucoup d'oxygène et on le partage, on en a besoin.
Et pourtant, le jardinage, c'est des relations.
Oui, bien
sûr.
Ça
a toujours été des relations entre la nature, le vivant, humains et les non-humains.
Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même une part d'investissement de l'humain là-dedans. C'est le jardinier, il travaille, oui. Mais peut-être pas tout de suite, pas immédiatement. Il faut d'abord qu'il comprenne le lieu dans lequel il se trouve, qu'il ait fait peut-être le recensement de la diversité qui est là. Évidemment, elle bouge, elle aussi, et les oiseaux sont pas toujours là tout le temps, tous les jours, c'est pas les mêmes, et ainsi de suite. Mais au moins, il y ait cette compréhension avant d'intervenir. Donc c'est pas mal de ne rien faire en attendant. Puis au bout d'un moment, moi j'ai mis 2 ans à me dire, bon ben voilà, maintenant je vois à peu près ce qu'il faut faire.
Mmh. Il faut être attentif à quoi ?
Attentif à...
Qu'est-ce qu'il faut regarder ?
C'est le comportement des animaux, le rythme des croissances des végétaux, le rapport directement de l'un à l'autre. C'est compliqué parce que même si on a une base de science de la nature, comme ça, des êtres animaux et végétaux, on est toujours étonné, il y a des tas de choses qu'on ne nous a jamais enseignées. Donc il faut qu'on l'observe. Comment on fait pour ne pas tuer, justement, alors qu'on a besoin de... Il faudrait que les limaces ne mangent pas les salades, enfin, voyez, quoi.
Ça serait bien, ça, quand même. Ou alors, oui. Il faut se dire, tant pis, je partage avec les limaces.
Alors, moi, c'est ce que je fais beaucoup, parce qu'il faut bien nourrir les limaces, qui, elles, nourrissent les hérissons, qui, eux, nourrissent, etc. Enfin, tout sert à tout.
Donc, mais vous reste de la salade, quand même ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je piège les limaces sous des planches. Il y a des planches qui traversent le potager, qui sont pour marcher d'ailleurs, mais en dessous la nuit, le jour plutôt, les limaces viennent se protéger de la chaleur, alors que la nuit, elles vont manger. Et il suffit de les ramasser le jour et de les mettre chez le voisin.
Est-ce que le jardinier Gilles Clément, c'est un artiste ?
Ah, le jardinier, il est à la fois... un savant, un scientifique, un artiste, un paysagiste, il est un peu obligé d'être tout ça. Il le sait pas, hein. C'est pas grave. Mais
pourquoi dites-vous c'est pas grave ?
Parce qu'il a pas besoin de savoir ça.
Ça lui plairait peut-être ?
Oui, ça lui plairait peut-être, mais on a rangé les humains dans des catégories d'experts et c'est triste. Ça veut rien dire, c'est un mot à supprimer. Vous vous rendez compte, on vous met des œillères, là vous ne regardez que ça, vous êtes un savant, alors vous savez, mais non, l'homme a une complexité. Il peut s'exprimer sur des champs très divers, et le jardin le permet.
Quelle est la première chose que vous faites quand vous entrez dans le jardin ?
Ah, quand je rentre dans le jardin, je fais un tour. Je vais découvrir, je vais voir ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là. Ça peut être pendant la nuit... ou pendant plusieurs jours si je suis absent, et je suis toujours étonné.
Qu'est-ce qui vous étonne encore ?
Ah ben l'arrivée de Verbascum blattaria. Alors vous, ça vous dira peut-être...
Non. Expliquez-nous.
Ben c'est une molène, une plante à cycle court, qui dépend des sols retournés. Elle était d'ailleurs arrivée sur une ancienne topinière, sauf que je ne l'avais jamais vue dans mon jardin depuis que j'y suis, c'est-à-dire 1977. Bon, ça s'est passé cette année. Et c'est une... Alors j'ai recherché là dans les flores et j'ai trouvé son nom. Il y en a d'autres molènes qui sont des plantes mal aimées au départ. Moi, je me souviens chez mes parents, je devais les enlever. Et ben là, moi, je les aime beaucoup en fait. D'autant plus qu'elles donnent à nourrir, elles servent de nourriture à des papillons de nuit, des chenilles de papillons de nuit. Et là, je vois arriver celle-ci qui est d'une grande beauté. Et bon, voilà, je n'ai pas prévu, rien n'est prévu là-dessus, vous voyez.
Et est-ce qu'au fil du temps, vous avez été, malgré vous, le témoin de certaines disparitions ? Puisqu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'extinction d'espèces.
Oui, bien sûr. Moi, je suis le témoin de la disparition de papillons de jour et de nuit massivement. C'est très impressionnant. Il y a des oiseaux qu'on ne voit plus, très rarement, enfin pratiquement plus, on n'entend plus le coucou, enfin c'est très inquiétant, oui.
Un silence qui est en train de s'installer ?
Oui, ça c'est ce qu'il y a de pire. Ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Heureusement, il ne s'installe pas tout le temps, mais il y a des moments, ce sont des moments que je n'aime pas du tout, c'est le mois d'août et le cœur de l'hiver, mais l'août c'est encore ce qu'il y a de plus difficile à supporter parce que c'est normalement un moment où on devrait profiter de quelque chose, du vivant. Et là, il n'y a plus de bruit.
Alors qu'auparavant, il y en avait.
Ah, mais bien sûr. Le chant des oiseaux, ça n'arrête pas. Vraiment. Et des chauves-souris qui mangent des insectes et les machins. Enfin, elles ne crient pas trop, mais bref, il y a quand même du monde. Et tout à coup, tout s'arrête, quoi.
Que faut-il prendre comme première mesure pour protéger ce vivant ?
La première mesure, c'est de ne pas tuer, bien sûr. Donc, il faut supprimer tout ce qui tue. Et pour commencer, c'est la chimie. On croit qu'en utilisant un désherbant, on supprime les trois espèces d'herbes qui nous gênent là. Pas du tout. On supprime beaucoup, beaucoup, beaucoup plus toutes sortes d'espèces qui sont autour, dont le poison va être en contact avec les racines des uns et des autres. J'ai fait l'expérience une seule fois dans ma vie, hein, je sais de quoi je parle. Mais aussi les insectes, qui eux vont évidemment servir être un manque de nourriture pour d'autres animaux. Bref, on rentre immédiatement dans la destruction de l'écosystème. Ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. La première cause, c'est la chimie, partout dans le monde. Elle est massivement répandue, mais de façon massive, folle, folle, sur des surfaces des milliers, des millions de kilomètres carrés dans les surfaces agricoles. Et on continue de dire, mais non, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut nourrir la planète. C'est n'importe quoi. C'est fou.
Et là, c'est un message qui est encore aujourd'hui adressé aux agriculteurs, notamment.
C'est adressé aux agriculteurs, et c'est chez nous, en France, en dialogue avec les citoyens, à qui on dit à quelle distance voulez-vous être tué ? 5 mètres ou 10 mètres ? Parce que c'est ça. Hein. On se fout de nous, quoi. Oui, ben c'est ça. C'est pas à quelle distance acceptez-vous que l'on passe le désherbant. De toute façon, ça tue. Ça tue les insectes, ça tue les plantes, ça tue les humains. C'est un peu plus lent, mais ça le fait. Bravo. J'ai pas envie de répondre à une question comme ça. J'ai envie de dire arrêtez. C'est tout, arrêtez. On sait faire autrement. Et on peut faire vivre et nourrir les gens sur la planète, y compris actuellement avec la surpopulation. On y arrive, on le sait.
Que vous inspire, Gilles Clément, la jeunesse qui se bat pour le climat, cette génération climat ?
Ah ben, je l'admire beaucoup, je suis très touché par ça. Et il faudrait que, associé à cette prise de conscience, il y ait une éducation, enfin un enseignement qui leur permette de renforcer leurs arguments. Un enseignement sur le vivant, simplement sur le vivant, parce que malheureusement il a été abandonné dans les écoles, pour renforcer leurs arguments sur les discussions et les projets qu'ils sont en train de mettre au point. Je trouve ça très bien.
Quand vous les entendez, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils ne sont pas suffisamment outillés ?
Ah oui, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que. C'est tout le monde. C'est vraiment, il y a eu une perte de
savoir. On a un manque de savoir sur le vivant de manière globale.
Globale, d'une façon terrible.
Et qui est essentiel, plus que jamais aujourd'hui.
Bien entendu, plus que jamais aujourd'hui. Vous mettez quelqu'un du ministère de l'Environnement dans l'environnement, il meurt en 3 jours. Ils savent pas ce que c'est les plantes, ils savent même pas mettre un nom, ils savent pas ce qui se mange et ce qui se mange pas. Il y a un problème. Mais enfin, il y a une prise de conscience qui n'existait pas autrefois.
En 2018, vous aviez sorti un roman, je l'ai sous les yeux. C'est Le Grand Bal, c'est son titre, une fiction qui se déroule dans un futur proche où le vivant a pratiquement totalement disparu. À la fin de ce roman, vous vous adressez à ceux qui prennent le risque de vivre.
Oui.
Prendre le risque de vivre, Gilles Clément, c'est vivre comment ?
Ah, c'est vraiment désobéir, c'est dire écoutez, non, moi je n'écoute pas ce que vous me dites parce que je ne veux pas être robotisé, je veux vivre. Donc je veux expérimenter moi-même. C'est ce que les animaux, les plantes font pour se mettre au point. Elles ne suivent pas un modèle qu'on leur impose, elles se transforment. Toutes ces êtres sont dans le transformisme lamarckien depuis toujours, et nous aussi.
Vivre, il faut aujourd'hui désobéir ?
Mais oui, bien sûr. Il faut commencer par ça, c'est-à-dire par dire, écoutez, je comprends ce que vous me dites, mais je vais agir comme je pense qu'il faut que j'agisse, moi. Parce que je suis fabriqué de cette façon-là, mon génome il est comme ça, mon corps est comme ça, mon rythme est comme celui-là, mon cœur bat de cette façon. Il n'y a pas un battement de cœur uniforme pour tous les êtres humains. Le rythme a énormément d'importance. Il y a des gens lents. Pourquoi un enfant qui est petit, on dirait t'es pas capable, t'es pas compétent, t'es pas bon. Ça, c'est la vision darwinienne et celle sous laquelle nous sommes aujourd'hui par le modèle économique. Tu vas à la poubelle. Mais non, lui, il peut vivre autrement et se transformer d'ailleurs, c'est-à-dire évoluer, mais avec ses compositions à lui, cet être.
Et jardiner, c'est désobéir, Gilles Clément ?
Tout le temps. On est en... Mais tout le temps. On fait quelque chose qui vient de la nécessité de faire vivre tous ces êtres qui sont complexes. Si on mettait une loi là-dessus, là je mettrais, alors là pour le coup, un juriste qui serait sur le jardin, je ne sais pas comment il ferait. Hein. Mais j'ai eu des contacts avec des juristes récemment qui m'ont dit quelles sont, d'après vous, la liste des animaux nuisibles. Je dis, mais non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ils ont des comportements, ces animaux. Il suffit de les comprendre et de voir comment on peut vivre avec eux. Je préfère le dialogue à la loi.
Voilà pour cet entretien avec le passionnant Gilles Clément. Et aux chances, dans deux minutes, la journaliste Pascale Clark débarque. Belle matinée à nos côtés.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Vous avez peut-être le temps long en ces moments de confinement, mais je vous le garantis, vous n'allez pas le voir passer le temps avec les choix culturels de nos invités. Dominique Méda, que nous proposez-vous ?
Alors, je vous propose un film très bizarre, un peu farfelu, qui s'appelle L'an 01. Ça raconte l'abandon de l'économie de marché du productivisme. Et il y a un certain nombre de résolutions qui sont prises par la population. La première, c'est « on arrête tout ». Et la deuxième, c'est « après un temps d'arrêt total, ne seront ranimés que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable ». Et donc, on entre avec ce film, après, dans une ère nouvelle qui s'appelle « L'an 01 ». Et donc, voilà, c'est très, très, très farfelu, très curieux, mais c'est vraiment en plein dans notre actualité.
Isabelle Ferreras.
Il doit y avoir quelque chose d'une sorte d'esprit du temps là, parce que je voulais aussi vous proposer un film un peu farfelu. Il s'agit du Père Noël est une ordure.
Ah oui.
un film qui est vraiment un des grands classiques.
Et ça plaît aux enfants.
Ça plaît à tout le monde. C'est un film complètement absurde, mais par ces temps de confinement, effectivement, les péripéties de SOS Amitié, de la centrale téléphonique, travail à distance avant l'heure. Et l'absurdité des relations entre Thérèse et tous ses compères. Voilà, moi, ça m'évoque plein de choses et bien sûr l'importance de l'amitié.
Laurent de Sutter.
Bah écoutez, moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose que vous aurez des difficultés à vous procurer sous forme physique aujourd'hui, vu que toutes les librairies sont fermées. C'est donc un livre, le dernier de Emanuele Coccia, le philosophe qui nous avait donné la vie des plantes il y a 2 ou 3 ans. C'est un livre qui s'appelle « Métamorphose ». C'est chez Rivage et c'est un livre qui est une réflexion magnifique et passionnante sur la notion de vie et sur la manière dont toute vie est transformation et une transformation qui implique toujours avec elle la transformation d'autres formes de vie. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, êtres humains, la vie des bactéries, la vie des virus qui fait partie de notre vie. Voilà, donc c'est une méditation qui en dit long sur, quelque part, pourquoi, comment nous en sommes là où nous en sommes maintenant et au fond, comment nous en débrouiller également.
Et de mon côté, je vous invite à lire « Sacrée sorcière », l'adaptation du livre de Roald Dahl par l'autrice de BD féministe Pénélope Bagieu. C'est vraiment merveilleux. C'est captivant du début à la fin et les personnages sont attachants. J'ai craqué en particulier pour celui de la grand-mère qui aime, vous le découvrirez, tellement et tout le temps désobéir. « Sacrée sorcière » pour petits et grands à lire en famille en temps de confinement. Enfin, vous avez peut-être repéré les minutes de confiné que la journaliste écrivait Pascale Clark offre quotidiennement sur Twitter. Pascale Clark qui a accepté de nous en offrir une version inédite pour clôturer ce numéro. Écoutez.
Bonjour à tous. Dis, ça fait combien de jours ? Ah, je sais pas. Dis, ça fait combien de nuits ? Bah, je parierais pas. Depuis que l'image s'est figée, depuis qu'on joue à domicile entouré de ses proches ou seul, sans même un chien à promener, la matière-temps s'est dilatée. Je vous écris des confins de l'ennui, là où tous les repères sont à réinventer. Foi de corona, ce virus a le bras long. Le monde dans lequel on vit est désormais scindé en deux, les confinés et les obligés. Télétravail ou téléto court pour les premiers, les confinés, ceux qui ne pensent plus qu'à ça. Déambuler comme avant, s'arrêter à une terrasse, enchaîner les mousses, s'embrasser à pleine bouche sous le haut vent. Pendant ce temps-là, les autres, les obligés, sont au combat, à la caisse, sur le marchepied d'un camion poubelle, au four à pain, et surtout aux urgences et en réanimation, personnel médical obstiné à nous sauver, fantassins aux mains nues, manquant de tout face aux poumons encombrés, de tout, sauf de courage et de dignité. L'heure est aux barrières, les confinés rêvent de corail, Les obligés aimeraient des masques et du plexiglas. Les confinés rêvent d'extérieur. Les obligés aimeraient rentrer chez eux sans la peur de contaminer leurs confinés, sans ce sommeil qui ne les répare pas. Il paraît que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Alors d'urgence, réécoutez Barbara. Dis, sale virus, quand te barreras-tu ? Allez, vous les confinés, vous les obligés, je vous embrasse de loin. Parce que quand même, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Quelques mesures de Barbara dit quand reviendras-tu. Pascal Clark, qui elle revient quand elle veut, et si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, lisez Mute, son dernier livre. Souvenez-vous, elle était venue nous en parler dans ce magazine. Voilà, fin de ce numéro. Merci Isabelle Ferreras et Dominique Méda d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, avec plaisir.
Et merci à vous Laurent de Sutter.
Merci à vous Pascal.
À bientôt, tout près de nous, j'espère, pour une autre lettre. Bonne journée.
Bonne journée.
C'était Dans quel monde on vit, merci de nous avoir suivis. Et vous savez quoi ? Dans quel monde on vit, c'est encore mieux en direct. La preuve, chaque samedi entre 10 et 11 heures sur la première. À très vite.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.